Ils ont écrit l'histoire du football français. Le Paris Saint-Germain a remporté ce matin la Ligue des Champions face à l'Inter Milan 5-0. Le club succède à l'Olympique de Marseille dans la liste des clubs français à remporter cette compétition. Frédéric Moulia va autoriser à quitter la métropole, mais elle reste sous contrôle judiciaire. Une juge d'instruction a estimé disproportionné de contraindre la membre de la CCAT à rester dans l'Hexagone, où elle avait été envoyée au lendemain des émeutes de mai 2024. Au Proche-Orient, l'espoir d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'amenuise. Washington et Israël ont jugé complètement inacceptable la réponse du Hamas à la proposition américaine de trêve. Entre rendez-vous shopping sur la place des Cocotiers et gourmandise au consulat d'Indonésie, il y avait fort à faire aujourd'hui à Nouméa. 400 trailers amateurs et confirmés étaient au départ de Tomo Valley pour une course ensoleillée sur le circuit de drift de Boulou Paris. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'exploit du jour en football, le Paris Saint-Germain a remporté la finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale est entré dans l'histoire après avoir gagné le plus prestigieux trophée des clubs, Michael Gineski.
5-0, score sans appel dans une finale menée d'une main de maître par l'effectif de Luis Enrique, alors qu'on s'attendait à une résistance farouche de l'Inter Milan, de Marcus Thuram et Benjamin Pavard, déjà trois fois titré dans la Champions League. Mais rien n'a empêché le PSG d'aller chercher cette victoire au terme d'une saison pleine. Dès la première période sur la pelouse de Munich, le temple des derniers bourreaux de Paris en finale il y a 5 ans, les Parisiens ont fait la démonstration des ingrédients qui les ont conduits jusqu'à cette finale. Hakimi avait ouvert le score à la 12e minute de jeu, Doué avait fait le break à la 20e. L'avantage était là, mais on pouvait craindre la réaction milanaise. Pourtant, le deuxième acte a tourné au festival. Doué, encore lui, inscrit une nouvelle réalisation à la 63e minute de jeu. Kvaratskhelia et enfin Mayulu ont crucifié l'Inter Milan avec deux derniers buts aux 73e et 87e minute de jeu. La note aurait même pu être encore plus lourde tant les offensives du collectif parisien ont coulé le camp de Milan. À l'arrivée, l'emblématique capitaine du PSG, Marquinhos, a enfin pu soulever la coupe aux grandes oreilles après des années de déception.
C'est fou, comme j'ai dit, je ne sais même pas si on mérite autant, 5-0 dans une finale.
C'est quoi
c'est
ça?
C'est fou, c'est voilà. On a souffert, moi particulièrement, j'ai souffert, ça fait 2 ans. Je suis là, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des bons moments. Je suis arrivé gamin avec un rêve et aujourd'hui j'ai accompli ce rêve, ça fait plaisir. Ma famille c'est pour eux aussi, ils ont toujours été avec moi. Mais pas que ça, je pense à tous les joueurs qui ont passé, ils ont pas réussi. Thiago Silva, Lucas, tous les autres, Zlatan, Cavani, tous les autres, Maxwell, tous les autres qui m'ont accompagné depuis ce mon parcours ici que je suis arrivé. Eux aussi, ils voulaient, ils ont pas réussi. Et moi, je pense à eux aussi maintenant. Je suis amoureux de cette équipe, de ce qu'ils font sur le terrain. D'abord, on a eu un coach qui a été magnifique. Ça fait 2 ans, il a beaucoup travaillé sur cette équipe, il a apporté cet ADN. C'est pas facile de changer cet ADN qu'il voulait. Il a mis un peu de temps, on a mis un peu de temps aussi à comprendre, mais dès qu'on a compris, je pense que l'équipe a grandi.
Une équipe complète, un collectif soudé, voilà la recette d'un PSG qui gagne à tout juste 19 ans avec 2 buts et une passe décisive dans cette finale. Désiré Doué a été élu homme du match.
Un rêve qui devient réalité. Voilà, quand on dit toujours travailler, toujours croire en ses rêves. Depuis petit, j'ai de grands objectifs, de grands rêves. Aujourd'hui, on a pu écrire l'histoire tous ensemble, l'histoire du Paris Saint-Germain. Un club incroyable, le meilleur club du monde. Voilà, je suis très très heureux et je remercie tous mes coéquipiers, tout le staff, le président. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire ce qu'on vient de faire. C'est juste magnifique ce qu'on a fait ce soir et je suis très 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 heureux.
Une page de l'histoire de Paris s'est écrite après avoir remporté tous les trophées nationaux cette saison avec le coach espagnol Luis Enrique qui a pour sa part remporté sa 2e Ligue des Champions en carrière en tant qu'entraîneur et qui pourrait encore conduire son équipe vers d'autres sommets. Le Paris Saint-Germain a décroché enfin le trophée qui lui manquait cruellement. Aux premières loges pour assister à cette finale en tant que commentateur pour M6, l'ancien héros du PSG, Antoine Comboiré, il a encensé la performance des Parisiens dans cette finale-là.
Beaucoup de supporters du PSG ne croyaient plus en cette équipe et les fameuses remontadas, tu t'es dit mais jamais, jamais ils gagneront parce que c'est une équipe de losers. Et lui, il a une grosse pensée pour tous ces garçons qui l'ont accompagné quand il est arrivé, il était tout jeune, il avait 19 ans comme il explique. Et aujourd'hui, donc, de se retrouver là et dire mais moi je gagne et tous ceux qui étaient là avant moi, qui étaient des grands joueurs, bien meilleurs que moi, mais ils n'ont pas gagné cette coupe aux grandes oreilles. Donc voilà, c'est beau. Puis moi, j'aime pas employer ce mot-là, mais pour la première fois, mes copains me comprendront, ça a été donc ce soir une boucherie. Un massacre. J'avais jamais vécu ça. Excusez-moi les Italiens, mais je suis obligé de le dire. J'ai employé les mots parce que c'est ça. J'avais jamais vu ça. Une boucherie pour... contre des Italiens, une équipe française.
Voilà pour la réaction du Calédonien. Antoine Comboiré, le PSG qui a donc réalisé une razzia historique cette année. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Champions League. Le triomphe de l'équipe qui a au passage signé le plus grand écart au score dans une finale de Ligue des Champions avec ce 5-0. Et surtout, un deuxième club français ajoute son nom au palmarès de la compétition, 32 ans après l'Olympique de Marseille.
Et la finale se jouait à Munich, mais les supporters qui n'ont pas fait le déplacement ont envahi les Champs-Élysées après cette victoire. Le Parc des Princes accueillait notamment près de 48 000 fans de l'équipe parisienne pour suivre la rencontre sur écran géant. La capitale et le théâtre de Seine de Liesse en ce moment même pour célébrer ce sacre. On notera toutefois quelques incidents sur les Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes. Près de 300 personnes ont été interpellées selon la police. Du côté des réactions, elles sont très nombreuses, y compris de la part de la classe politique française. Le président de la République lui-même a écrit sur les réseaux sociaux, je cite « Champion mon frère » et d'ajouter « Jour de gloire pour le PSG, bravo, nous sommes tous fiers, Paris, capitale de l'Europe ce soir ». Quant à l'ancien Parisien Kylian Mbappé, parti cette saison au Real Madrid, il n'a pas hésité à féliciter ses anciens coéquipiers. « Le grand jour est enfin arrivé », a écrit l'attaquant de l'équipe de France. Une finale suivie de près aussi en Nouvelle-Calédonie par tous les fans de Paris. Beaucoup s'étaient donné rendez-vous pour partager ce grand moment, comme c'était le cas dans plusieurs établissements de Nouméa, Charlotte Coulson.
Ah oui, des centaines de personnes avaient choisi de se réunir pour vivre ce grand moment de football. De Paris à Nouméa, les maillots du PSG étaient de rigueur pour ceux qui voulaient suivre leurs équipes depuis le coup d'envoi à 6h pour nous. Et ils ont eu raison, le spectacle était au rendez-vous pour ceux qui ont donné de la voix à chaque but du PSG jusqu'au coup de sifflet final.
Je suis parisien depuis que je suis tout petit, ça fait 35 ans que je supporte l'équipe. C'est comme en 98, j'avais 20 ans, là maintenant j'en ai 47. Et voilà, c'est génial. Pour l'instant c'est génial. Et c'est pas fini.
Deuxième finale de Ligue des Champions pour le PSG. Ça sent quand même bon pour l'instant, donc on va croiser les doigts. Plus de 40 ans que j'attends cette petite étoile sur le maillot. Et du coup, petite dédicace aux Marseillais, si on gagne cette Ligue des Champions, ils seront plus les seuls à avoir l'étoile.
Supporter l'équipe française, et Paris notamment, et peut-être un but. Eh oui ! Eh oui ! Oui ! Voilà, vous avez compris pourquoi j'étais là ce matin. Pour vivre en fait un événement exceptionnel. En direct, même loin de Paris, ben, on est quand même avec eux.
C'est une émotion très forte. On est super contentes.
Oui, c'est la meilleure équipe du monde.
40 ans qu'on attend ça, donc ben voilà, là c'est la concrétisation de tout le projet du Paris Saint-Germain. Donc du coup, voilà, heureux de vivre ça.
Et des scènes de joie, vous l'avez entendu, jusqu'à la fin du match, avec un public qui était largement acquis à la cause de Paris. Et ce dimanche matin qui a débuté de la meilleure des manières pour tous les fans calédoniens du Paris Saint-Germain.
Encore une réaction sur le territoire, celle du président de la Fédération calédonienne de football, lui-même supporter du PSG. Gilles Tavergeux n'a pas caché sa grande satisfaction.
C'est historique, hein, surtout avec le résultat, la manière dans laquelle ça s'est déroulé. Je veux dire, moi, je suis très très satisfait pour cette belle équipe, et puis je veux dire pour l'ensemble des supporters, qu'ils soient calédoniens ou en métropole. Je veux dire, voilà, et dans tout le monde, hein, il y a des supporters du PSG partout. Donc voilà, c'est historique, et le résultat reflète aussi toute la saison, toute la campagne européenne pour aller gagner ce titre enfin. Le football, il ne peut sortir que grandi de cette belle finale avec ce score peut-être flatteur pour le PSG, mais qui reflète aussi toute la saison du PSG, aussi bien dans le championnat de France que lors de toutes ces qualifs pour arriver à cette finale. Je veux dire, ils ont su, rester très motivés et très concentrés sur cette compétition. Et je pense que l'entraîneur qu'ils ont actuellement, ben, il est pour une très très grande partie, puisqu'il a su allier la jeunesse à l'expérience pour pouvoir enfin décrocher ce titre.
Gilles Tavergeux, le président de la Fédération calédonienne de football. Après cette victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, je le rappelle, sur le score de 5-0. Justice maintenant avec la suite de la procédure concernant des membres de la CCAT mis en examen pour leur rôle dans les émeutes de 2024. Frédéric Mouliava a été autorisé à quitter la métropole, Michael Juneski.
Celle qui était directrice de cabinet de l'ancien président du Congrès en 2024, Rocco Amitan, a été autorisée à quitter la métropole, mais elle reste sous contrôle judiciaire. On rappelle que, comme 10 autres membres de la CCAT, dont Christian Théin, Frédéric Mouliava avait été mis en examen après le 13 mai 2024 dans une enquête d'abord instruite à Nouméa, des mises en examen pour des rôles présumés dans les émeutes et pour identifier les commanditaires des violences de l'année dernière. Frédéric Mouliava avait été transféré en juin 2024 dans l'Hexagone. Elle avait d'abord été incarcérée à Riom, en Auvergne, avant d'être assignée à résidence sous bracelet électronique. Pour mémoire, 8 membres de la CCAT sur les 13 mis en examen ont demandé le dépaysement de l'information judiciaire, c'est-à-dire pour confier à des juges parisiens l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Nouméa. En métropole, une juge d'instruction a donc estimé que, dans le cas de Frédéric Mouliava, il apparaissait disproportionné de contraindre la mise en cause à rester assignée à résidence dans l'Hexagone. Contactée par l'AFP, ses avocats n'ont pas souhaité faire de commentaires. Elle peut revenir en Calédonie, mais elle reste tenue à des obligations, ne pas être en contact avec les autres personnes de la CCAT mises en examen dans ce dossier et ne pas participer à une manifestation publique.
La vraie question, ce n'est pas l'indépendance, affirme François-Xavier Bellamy. Le député européen, qui est aussi le numéro 2 des Républicains, vient de passer quelques jours sur le territoire et il était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Baudin.
D'emblée, François-Xavier Bellamy relève que la Nouvelle-Calédonie n'est plus la même que celle qu'il a connue lors de sa dernière visite en 2023. Il parle de traumatisme collectif et il déclare que le 13 mai, c'est tous les jours, avec des conséquences dans tous les secteurs de la Calédonie. Quand on évoque les causes de cette crise, il affirme que lui, il n'oublie pas ce qu'il a provoqué.
Ce qui a provoqué cette crise, c'est le fait qu'une petite minorité a décidé que la violence devait l'emporter sur l'expression démocratique. Il y a eu un accord important, l'accord de Nouméa, qui a réuni toutes les forces calédoniennes de toutes les sensibilités, de tous les horizons, de toutes les communautés, pour dire maintenant nous avançons vers un processus qui permettra que les Calédoniens s'expriment à travers 3 référendums. 3 référendums uniques dans l'histoire des démocraties. 3 référendums qui devaient permettre une autodétermination. Ces 3 référendums ont eu lieu avec un corps électoral qui était gelé pour garantir justement ce travail de décolonisation. Et quand ces 3 référendums se sont terminés et qu'il a légitimement été nécessaire de se projeter vers l'avenir et de dégeler le corps électoral, parce que c'est un impératif fondamental d'un point de vue démocratique pour prendre en compte l'expression des Calédoniens, eh bien certains ont décidé que la violence devait avoir raison contre le droit, contre la liberté, contre la démocratie, contre la dignité des habitants de Nouvelle-Calédonie.
Pour François-Xavier Bellamy, tous les Calédoniens ont perdu du fait de ces violences insurrectionnelles et notamment les plus vulnérables et les plus fragiles. Et il affirme que jamais la violence ne doit avoir le dernier mot.
Faire en sorte que la violence ne revienne pas, c'est aussi refuser de lui donner raison. Et moi, je dois dire que je me sens en désaccord profond avec les responsables politiques qui aujourd'hui décide que parce que la violence a frappé, il faudrait peut-être changer les termes du débat, il faudrait peut-être accepter de faire des concessions. Parce que la violence a ravagé la Nouvelle-Calédonie, il faudrait par exemple promettre un 4e référendum. Mais je l'ai dit il y a 1 an et je le redis aujourd'hui, cela c'est ouvrir la porte à de nouvelles violences. Ça n'est pas ramener la paix. On ne ramènera pas la paix en faisant que la violence paye. On ramènera la paix en disant que jamais ceux qui détruisent n'auront gain de cause à la fin.
Pour le vice-président de LR, il faut se donner les moyens de la sécurité et il réaffirme l'engagement du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'assurer l'ordre public en Nouvelle-Calédonie. Interrogé sur la question institutionnelle, François-Xavier Bellamy affirme que ce qui a manqué aux Calédoniens, c'est le respect du choix qu'ils ont fait. Et pour lui, la vraie question n'est pas l'indépendance, et cela pour 2 raisons.
La première, c'est que le processus ouvert par l'accord de Nouméa, il s'est clos. Et donc, moi, je le dis de manière très claire, et je le dis à tous ceux qui, à gauche, à l'extrême gauche, continuent d'utiliser ces mots. La décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, elle est terminée. Elle s'est achevée. Oui, la Nouvelle-Calédonie a été une colonie. Et c'est la raison pour laquelle il fallait, oui, que la Nouvelle-Calédonie se prononce de manière libre sur son destin. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que dans les accords de Nouméa, on puisse engager ces référendums. Ça a été le chemin choisi. On pourrait distribuer avec le recul des bons, des mauvais points. Ça m'est complètement égal. Ça n'est pas mon rôle. Encore une fois, je regarde le passé avec lucidité et je regarde le passé avec reconnaissance pour tous ceux qui se sont engagés dans ce processus infiniment difficile et qui exigeait tellement d'efforts de tous côtés. Ce processus processus a eu lieu. Les trois référendums ont eu lieu. La décolonisation, ça voulait dire ça. La décolonisation, ça ne veut pas forcément dire l'indépendance. Ça aurait pu vouloir dire l'indépendance si les Calédoniens l'avaient voulu. Mais ils ont dit qu'ils voulaient rester dans la France. Et maintenant, la Nouvelle-Calédonie n'est plus une réalité coloniale. La Nouvelle-Calédonie, parce que les Calédoniens l'ont voulu, elle est française. Et donc la vraie question maintenant, ça n'est plus de spéculer indéfiniment sur l'indépendance.
Le droit à l'autodétermination a été exercé au travers des trois référendums, affirme François-Xavier Bellamy. La question maintenant, c'est de savoir comment on écrit l'avenir. Et il répond à Marine Le Pen, qui a reproché leur absence de lucidité à ceux qui pensaient que les trois référendums régleraient la question. Il s'étonne que la chef de file des députés Rassemblement National traite les référendums avec une telle légèreté.
Marine Le Pen disait hier qu'elle était toujours candidate à l'élection présidentielle. Si elle se présente à cette élection suprême, il faudra quand même qu'elle nous explique pour quelle importance elle tient l'exercice d'un référendum, quelle crédibilité elle donne à la parole souveraine d'un peuple qui s'exprime en allant voter pour décider de son avenir. Il ne s'agit même pas d'un référendum, il s'agit de trois référendums. Je ne dis pas que ces trois référendums viennent clore toutes les questions, qu'ils épuisent tous les sujets. L'essentiel maintenant est devant nous, c'est comment on relance l'économie, comment on arrive à construire l'unité de la société calédonienne, comment on rétablit le travail éducatif qui manifestement a tant besoin d'être soutenu, comment on retrouve des conditions favorables pour la santé en Calédonie. Toutes ces questions-là, elles sont bien sûr devant nous, mais ces trois référendums, ils ont une valeur déterminante pour traiter toutes ces questions, parce que ces trois référendums, ils disent que les Calédoniens ont voulu que la Calédonie soit française. Et si Marine Le Pen ne veut pas entendre cela, alors je crois que malheureusement, elle manque au respect de la démocratie, mais elle manque aussi à la France.
De la même manière, François-Xavier Bellamy estime que le projet d'indépendance association proposé par Manuel Valls serait une trahison démocratique. Il estime de toute façon que cette proposition a été mise en échec et il rend hommage aux délégations des partisans de la France qui s'y sont opposés lors du conclave de Deva. Il rappelle aussi que cette proposition ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement et que Bruno Retailleau a déclaré que si un tel projet était mis en œuvre, il quitterait le gouvernement. Interrogé sur les ingérences extérieures, François-Xavier Bellamy met très directement en cause l'Azerbaïdjan, qu'il qualifie de premier État corrupteur dans les institutions européennes et l'une des pires dictatures du monde.
Si vraiment, pardon de le dire avec franchise, mais si vraiment il y a en Nouvelle-Calédonie des élus qui pensent défendre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom de la dignité, alors je crois qu'ils doivent renoncer à jamais à employer tous ces mots s'ils ont comme premier allié un État dictatorial qui figure parmi les puissances les plus répressives du monde. C'est l'Azerbaïdjan qui, il y a 3 ans, a attaqué sauvagement le peuple arménien parce qu'il revendiquait l'autodétermination dans le Haut-Karabakh, parce qu'il revendiquait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cet État, l'Azerbaïdjan, a attaqué ce peuple, a attaqué des civils désarmés pour pouvoir garantir son pouvoir oppressif sur ce territoire contre leur volonté d'autodétermination. Je dis aux indépendantistes aujourd'hui, si c'est là votre allié, alors ne venez plus jamais nous parler de liberté, plus jamais d'autodétermination, plus jamais de démocratie.
Et en conclusion, François-Xavier Bellamy a répondu à la question, y a-t-il de l'inéluctable ?
Dire que la Nouvelle-Calédonie est française, ça n'a rien d'une évidence. Et certains voudraient nous faire croire que, en fait, non, c'est fini, que c'est terminé, que quoi qu'il arrive, c'est plié, que bien sûr, ça durera pas, qu'il faut s'y préparer, que quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière, un jour, tout ça sera fini. Moi, je crois l'inverse. Et je pense que les Calédoniens le montrent aujourd'hui par leur incroyable courage. J'ai parlé de cette peur que j'ai sentie, de cette blessure, de cette souffrance. Mais je voudrais dire ce qui me marque le plus, c'est le courage, c'est la détermination des Calédoniens, de ces entrepreneurs, de ces salariés qui reconstruisent leur outil de travail malgré toutes les difficultés, de ceux qui se réengagent pour l'avenir, de ces élus qui continuent de se battre et qui n'ont jamais rien lâché. Aujourd'hui, les Calédoniens nous disent qu'il n'y a rien d'inéluctable. Et je crois qu'il faut le prendre au mot. Moi, je suis convaincu que les Calédoniens l'ont dit et que cela se réalisera. L'avenir de la Calédonie est dans la France et c'est la responsabilité de la France maintenant de le construire avec tous les Calédoniens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, pour garantir leur égale dignité. Mais il n'y a rien d'inéluctable, il n'y a pas de fatalité à ce que ce rêve disparaisse. Au contraire, ce rêve, c'est notre avenir. Ce sera la réalité, on le construira ensemble et ce sera notre manière de prouver qu'impossible n'est pas français, impossible n'est pas calédonien non plus.
Le vice-président de LR, François-Xavier Bellamy, qui est aussi, rappelons-le, professeur de philosophie de formation.
Une interview de François-Xavier Bellamy qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez également la réécouter ou la visionner sur notre site internet rrb.nc. Midi 19, on va marquer une première pause avant de voir le reste de l'actualité dans le monde.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Ici, on commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite de votre journal. On retrouve Léana Colombo.
Et fin de tournée d'Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est. Le chef de l'État français sera passé par le Vietnam, l'Indonésie pour terminer par Singapour. Au-delà de l'épisode de la gifle avec son épouse, le président s'est surtout employé à instaurer une influence française en Asie avec de gros contrats à la clé. Au Vietnam, la délégation présidentielle a signé pour 9 milliards d'euros d'accords et contrats commerciaux, 17 milliards avec l'Indonésie qui fait de la France son premier partenaire en matière de défense. Emmanuel Macron a également abordé la question de la reconnaissance d'un État palestinien. Il appelle à des sanctions contre Israël. Et dans un même temps, la réponse du Hamas à la proposition américaine de cesser le feu dans la bande de Gaza a été jugée inacceptable, aussi bien par Washington que par Israël. Le mouvement islamiste prévoyait, selon un communiqué, la libération de 10 otages toujours vivants et la restitution de 18 corps d'otages enlevés le 7 octobre. Les précisions de Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
Pour Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, la réponse transmise par le Hamas est totalement inacceptable et elle constitue un retour en arrière par rapport au progrès obtenu dans les négociations. Même tonalité de la part de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien accuse l'organisation terroriste palestinienne de persister dans son attitude de refus alors qu'Israël avait accepté la dernière formule de compromis élaborée par les négociateurs américains. Dans sa réponse, le Hamas avait de fait modifié certaines des clauses de la proposition américaine, le principe d'une trêve de 2 mois, éventuellement renouvelable, était maintenu, mais les 10 otages que le Hamas aurait libérés auraient été remis à Israël en 3 étapes, certains à la fin des 60 jours de cessez-le-feu. La proposition originelle prévoyait leur libération en 2 temps, séparés de quelques jours seulement, et au début de la trêve. L'organisation islamiste insiste en outre sur sa demande d'un engagement personnel de Donald Trump pour que les négociations menées pendant la période de cessez-le-feu aboutissent à la fin de la guerre.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Je rappelle qu'hier, Israël avait sommé le Hamas d'accepter la proposition américaine de trêve et de libération des otages sous peine d'être anéanti. En bref, nouvelle tension entre l'Union européenne et les États-Unis sur les droits de douane. L'UE a déclaré regretter vivement les nouvelles taxes annoncées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium importés. Elle se dit prête à riposter. Le président américain a annoncé vouloir faire passer la surtaxe sur ces deux matériaux métalliques à 50%. Et enfin, l'actualité est en métropole. C'est la ville de Paris qui va porter plainte après que 3 synagogues, le mémorial de la Shoah et un restaurant de la communauté juive ont été aspergés de peinture verte hier pour nous dans la capitale. Une enquête a été ouverte pour dégradation commise en raison de la religion. Le président israélien Isaac Herzog a également réagi. Il s'est dit, je cite, « consterné par l'attaque contre des institutions juives ». L'actualité dans la région et en Nouvelle-Zélande, le ministre en charge de la dérégulation, David Seymour, occupe à partir d'aujourd'hui les fonctions de vice-premier ministre dans le gouvernement de Chris Luxon. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette prise de fonction de David Seymour s'inscrit dans les accords de coalition que son association des consommateurs et des contribuables avait conclu avec le parti national de Chris Luxon et le parti New Zealand First de Winston Peters suite aux législatives de novembre 2023 qui avaient porté la droite au pouvoir à Wellington. Conformément à ces accords, le poste de vice-premier ministre serait confié à Winston Peters pendant 18 mois, au terme desquels David Seymour en hériterait. Cette période vient de s'écouler et David Seymour a donc été assermenté hier par le gouverneur général de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
Allez, retour sur le territoire et jetons un œil sur les activités festives d'aujourd'hui. Comme tous les premiers dimanches du mois, le vide-grenier de la ville de Nouméa se déroulait ce matin sur la place des Cocotiers, Michael Juneski.
Oui, comme toujours, l'affluence forte pour trouver les habituelles piles de linge, cartons de vaisselle, bric-à-brac, ustensiles en tout genre mis en vente. Et au milieu des stands, certains trouveront peut-être des trésors, comme avec Nicolas, collectionneur de cartes Pokémon.
Ça marche très très bien. Après, les enfants sont complètement fan des Pokémon en ce moment, donc même si les cartes sont en japonaise, j'avoue que ça marche très fort. En fait, je suis collectionneur à la base et du coup, c'est vrai que j'ai accumulé un grand nombre de cartes en double et je me suis dit que c'était peut-être un moment de les vendre. Moi maintenant, j'ai 41 ans, je crois que ça a commencé quand j'avais 14 ans, donc voilà, à peu près 25 ans. J'ai des modèles très rares, tous mes doubles sont là et dans les doubles, il y a quand même des pièces assez sympathiques. Ouais. Il y a quand même des gens qui ont des demandes très très précises. Si on n'est pas très connaisseur, on peut pas répondre à ce genre de questions et pourtant les enfants ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, donc c'est agréable de voir que finalement la relève est là.
Les enfants particulièrement heureux de trouver un spécialiste en la matière sur le vide-grenier de la place des Cocotiers qui s'achève en ce moment même au centre-ville de Nouméa.
Et la culture indonésienne à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Pancasila. Le consulat général d'Indonésie organise une journée culinaire animée par de nombreux spectacles de danse et de chants traditionnels. Charlotte Coulson.
2500 personnes sont attendues. Comme chaque année, l'événement met en lumière les éléments qui font la culture indonésienne. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler leur histoire en Calédonie. Arrivée sur le territoire en 1896, la diaspora indonésienne est aujourd'hui estimée à 6000 personnes en Nouvelle-Calédonie. C'est donc une communauté discrète, mais bien présente, qui est mise à l'honneur. Il a fallu une journée entière de préparation pour concocter les plats indonésiens. Patrick Hashim, consul d'information auprès du consulat général d'Indonésie, nous en présente quelques-uns.
Normalement, nous le faisons au mois de mai. C'est pour commémorer l'anniversaire de l'installation de notre consulat ici à Nouméa. Puis après, ça s'est développé, élargi pour devenir un événement pour promouvoir la culture, mais aussi la gastronomie indonésienne en Nouvelle-Calédonie. Vous avez des plats traditionnels indonésiens que vous pouvez découvrir ou redécouvrir. Il y a des incontournables comme le saté, les brochettes de viande, il y a des bakso, le soto, c'est la soupe traditionnelle. Et vous avez évoqué, bien sûr, il y a des performances, des chants, des danses, tout ça pour animer l'événement.
Ah, c'était trop beau, elles étaient trop belles avec leur tenue traditionnelle, trop sympa.
Vous avez goûté aussi des choses?
On m'a fait goûter un peu des chips indonésiennes là sur le chemin. Et là, je vais peut-être me laisser tenter par des petites gourmandises. Je connais pas trop, mais je vais goûter un peu à tout, je pense.
La journée culinaire organisée par le consulat général d'Indonésie a débuté à 10h ce matin. Les plats partent très vite, mais vous avez encore une chance de goûter quelques spécialités. L'événement prend fin à 15h.
Merci Charlotte Coulson. Seconde pause et on passe au sport.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments en chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Info week-end, l'actualité sportive, on retrouve Léana Colombo.
Et nous avons évoqué le football dès le début de ce journal avec la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Le PSG a dominé l'Inter Milan sur le score sans appel, je vous le rappelle, de 5-0 pour célébrer son premier sacre dans la plus prestigieuse compétition des clubs. Mais il n'y a pas que du football, il y a également du tennis avec une Française encore en lice à Roland-Garros.
Loïse Boisson, la dernière tricolore en simple dame. À 22 ans, elle s'est qualifiée en deuxième semaine pour ses internationaux de France. Elle a battu sa compatriote Elsa Jacquemot 6-3, 0-6, 7-5. La Française s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière. Elle devra battre l'Américaine Jessica Pegula, troisième joueuse mondiale.
Il y a forcément pas mal de pression au départ, de stress parce que c'est Roland. Mais au final, je m'en sers assez bien. Quand j'arrive sur le terrain, je suis détendue, je suis relâchée et j'arrive à jouer mon tennis.
Dans le tableau, messieurs, on signalera que l'Allemand Alexander Zverev a battu l'Italien Coboli en 3 manches. Novak Djokovic, l'ancien numéro 1 mondial, s'est aussi imposé face à l'Autrichien Filip Mezolic, issu des qualifications 6-3, 6-4, 6-2.
Et l'actualité du rugby avec la 25e journée du top 14.
Les premiers résultats et Clermont qui a battu le Stade français 55-20. Victoire encore de Castres sur Bayonne 33-3. Montpellier a battu le Racing 92, 27-25. La section paloise a dominé Vannes 52-26. Et La Rochelle a battu Perpignan sur le score de 38-15. Demain, le Stade Toulousain recevra Lyon et le RC Toulon accueillera l'Union Bordeaux-Bègle.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et la Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne, les McLaren s'élanceront en tête sur la grille de départ.
Un message fort envoyé avant la course. Oscar Piastri, le leader du championnat du monde, partira en pole position aux côtés de son coéquipier Lando Norris. Max Verstappen sur Red Bull a signé le troisième temps de référence dans ses qualifications devant la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Lewis Hamilton. Pierre Gasly est le meilleur pilote français. Sur Alpine, il a signé le huitième chrono.
Je suis extrêmement content, c'est je pense notre meilleur qualif de cette année. On a réussi à faire les tours à chaque fois au moment où il fallait aller chercher un super temps à la fin. C'est clairement le mieux qu'on pouvait faire aujourd'hui et ça fait plaisir.
Isaac Hadjar, l'autre pilote français, partira de la 9e position, tandis qu'Esteban Ocon ne s'élancera que de la 17e place. Grand Prix d'Espagne à suivre ce soir, départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et passons au sport sur le territoire avec le trail de Tomo Valley qui se déroulait sur le circuit de drift de Boulou-Paris. 3 parcours étaient proposés, un de 15 km, un de 8,5 km et enfin un format familial de 3,5 km. Et c'est sous un grand ciel bleu que 400 coureurs se sont élancés de la ligne de départ. Une réussite pour Laure Papin, membre de l'association Challenge Organisation.
C'est une bonne moyenne cette année, c'est ce qu'on a rassemblé sur nos événements. Alors, sauf certains qui ont beaucoup de succès, comme la SNSM qui a eu lieu la semaine dernière, où là on était à 1000. Mais on est déjà satisfait là pour une première édition, d'autant que le mois de mai est chargé en rendez-vous sportif. Et puis on est content parce qu'on a un public aussi très familial. On avait beaucoup de gens alignés sur la ligne de départ du petit parcours avec beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Donc c'est intéressant aussi, ça nous fait plaisir de voir la relève qui arrive.
Sur le grand vroom de 15 km chez les hommes, Gabriel Espada l'emporte en 1h 5 minutes 8 secondes, suivi de Ludovic Lanceleur en 1h 6 minutes 45 secondes. Antoine Barguin referme ce podium en 1h 6 57 secondes. Cassandra Quérol se distingue de son côté chez les femmes en 1h 26 minutes et 5 secondes.